Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur Africa Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, lundi, dans le JDA de Sahel, dans la tourmente, dans une interview, le président français Emmanuel Macron a appelé les pays africains à prendre leurs responsabilités. Alors comment pensez-vous, comment mettre un terme à la spirale de la violence dans le Sahel? Pour nous donner votre avis, participez à l'émission. Le numéro, c'est le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Avant cela, séance de rattrapage de vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Allô, bonjour Madame Hartmann, bonjour les auditeurs. Donc, je viens écouter un auditeur du nom de Camaras, les élections qui est passée en Mauritanie, mais je suis sidéré d'entendre une telle analyse. Comment est-ce possible que l'homme noir se méprise et pense que l'homme noir est-il mauvais et qu'il accepte sa condition dans laquelle il est esclave et qu'on le maintient dans un système d'esclavage sans tenir compte que l'esclavage est quelque chose de mauvais. Je pense que de tels auditeurs, c'est vrai, devaient revoir leur culture et apprendre à savoir qui ils étaient. C'est vrai, une élection n'est pas facile, une élection n'est pas claire, mais comment est-ce possible que l'élection s'est passée et sans avoir à donner le résultat final par la CENI, que celui qui vient de l'ancien président se dit élu au premier tour et sans tenir compte de la condition de vie des Noirs, des négros africains. Non, c'est une aberration. Non, c'est dommage. On ne comprend plus le peuple noir, on ne comprend plus ceux qui vivent dans un système qui les domine, qui les écrase et qui se complaisent dans cette domination. C'est honteux, c'est mal, c'est très mal. Merci, je m'excuse auprès des auditeurs, mais il fallait que je réagisse à cela. Merci.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour Africa Radio. Pendant que la pauvreté et les désolations règnent dans notre pays, les députés maliens n'ont pas hésité de faire une prorogation des mandats des députés à leur faveur. Quand on est incapable, quand on n'a pas la possibilité d'apporter une solution depuis tant d'années, on doit s'en aller. Donc, par conséquent, nous nous disons aux populations maliennes à ne pas se résigner face à ce prédateur des biens publics. Je ne saurais terminer sans dire merci à Africa Radio pour la disponibilité accordée à nos regards, à nous donner la possibilité d'intervenir, de parler librement. À bon entendeur, salut, vive Africa Radio.
Oui, et bonjour Madame Stéphanie Hartmann, bonjour chers amis de Radio Africa. Madame Stéphanie, vraiment franchement, je n'ai pas voulu intervenir, mais là, je viens d'écouter l'émission là, de vendredi, là. Je ne pouvais pas rester sans rien dire. Vous avez un auditeur qui a appelé tout à l'heure, qui parlait des étrangers qui viennent voter, surtout en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il appelle, il n'est même pas capable de prendre ses responsabilités. Dit carrément que je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du président Bédi ou je parle du président Alassane Ouattara. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis ado, mais je vais vous dire un truc. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plan qui est mis en place, c'est pour la jeunesse, c'est pour le futur. C'est pour la génération future. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a quelqu'un qui est en train de mettre un plan en place. On nous dit, écoutez, aujourd'hui, il y a la possibilité pour les jeunes demain de prendre ce pays en main. Je vois des candidats qui se présentent sans aucun plan social. Qu'est-ce qu'ils nous présentent, ces candidats? Tout ce qu'ils ont à nous présenter, c'est l'ivoirité. On m'a chassé de pouvoir. Je veux mon poste. Mais franchement, dites-moi. Moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Alassane Ouattara, il travaille. Mais je vais vous le dire. S'il y a un candidat qui a un programme sérieux pour les Ivoiriens, plus que celui d'Alassane Ouattara, je ne vais même pas hésiter à aller voter la personne. Mais si vous avez que des programmes en train ici, que seulement attaquer, je ne sais pas, des étrangers pour dire qu'il y a que des étrangers en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui viennent voter. Mais j'ai dit, mais c'est perdu d'avance. S'il vous plaît, chers Ivoiriens, regardez, s'il vous plaît, des grâces.
Bonjour Radio Africa. Bonjour tous les Congolais. Vous suivez en ce moment une interview sur France 24 où le président Tshisekedi est en train de s'exprimer. Et ça, c'est bien. Mais moi, je tire un point dessus. On lui a posé une question. Comment il vient d'avoir un premier ministre après plusieurs transactions, après 6 mois. Et maintenant, c'est déjà après 5 mois, c'est ça. Et maintenant, il y a déjà un mois passé que ce premier ministre est dans son poste et qu'il n'y a pas de gouvernement. Lui, il répond, il compare la Belgique, l'Allemagne dans cette histoire. Mais la Belgique, est-ce que quand il n'y avait pas de gouvernement, c'était après une passation de pouvoir. C'est pas le même cas. Lui, il est passé président, il devait avoir la totalité, la majorité de toutes choses. Il devait décider exactement. La Belgique, c'est des pays développés et l'Allemagne. Au moment où il n'y avait pas de gouvernement, et tout fonctionnait.
Mes chers amis auditeurs, notre pays, le Congo, est pillé par le Rwanda. Le Rwanda est devenu le premier fournisseur mondial du coltan, alors que ces minerais proviennent du Congo. Comment pourrais-je dormir tranquillement alors que mon pays est dévalisé jour et nuit par la complicité de notre propre compatriote? Le Congo va dans un gouffre. Kabila ne veut pas lâcher le Congo. Il y a trop d'impunité en faveur de ces messieurs.
Amis du JDA, bonjour. J'appelle par rapport à la vidéo que j'ai vue sur le net concernant le frère Mouassoulou Diouabanza qui est parti au restaurant La Coupole à Paris et après il a réglé sa note avec le franc CFA. Alors, il était tellement dans ses droits et il avait tellement raison qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter le franc CFA à ce restaurant. Il a payé à peu près 51 000 francs CFA, il est parti. Voilà un geste courageux, intelligent, intellectuel que nous tous, on doit suivre. Parce que le franc CFA, on a le droit de l'utiliser en France. C'est une monnaie purement française. Le trésor public français en garantit la convertibilité. Et rien que sur cette base-là, juridiquement, on a le droit.
Oui, bonjour à mes auditeurs, c'est Diomo de Beng. Je me prononce aujourd'hui sur l'actualité du jour. J'ai appris et j'ai un peu écouté un tout petit peu le discours du président Macron concernant la prise en charge des Africains par eux-mêmes. Je me réjouis de ce discours, surtout dans le Sahel, parce que nous avons tout fait. Il y a toutes les forces qui sont réunies au Sahel et rien n'avance. Tout récemment, il y a eu la grande réunion de G5 Sahel qui attendait des financements. Mais attendons, pourquoi attendre que des financements européens viennent pour sauver notre Afrique, sachant que nous avons un sous-sol très riche? Et encore, quand je m'en tiens au dit des panafricains, l'Afrique est en train de prendre peu à peu son indépendance à travers déjà le changement de la monnaie unique, qu'est le CFA, et surtout remplacé par l'écho. Je pense que toutes ces forces réunies en Afrique, on n'a pas besoin, si nous nous en tenons compte des réalités, on n'a pas besoin de l'Europe, comme ils le disent. Mais je pense aussi que le président Macron est en train de mettre un terme quand même à la France-Afrique aussi tant décriée par nos chers panafricains.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages, hein, des messages nombreux en raison du week-end. N'hésitez pas, hein, le répondeur vous appartient. J'étais en train de vérifier l'information sur le franc CFA, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Effectivement, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Hein, on voit un monsieur essayer de payer avec des francs CFA dans un restaurant français. Voilà, le sujet du jour, c'est le Sahel dans la tourmente, dans une interview, ou plutôt dans des off, comme on dit dans le langage journalistique. Hein, le président français Emmanuel Macron a appelé les pays africains à prendre leurs responsabilités pour la question du Sahel. Il a mis en cause, hein, le manque de décentralisation et le manque d'implication politique notamment en Mali, tout en fustigeant ceux qui instrumentalisent le sentiment anti-français. Le président français a justement estimé que sans l'intervention de la France et sans l'opération Serval, hein, ces pays auraient disparu. Alors qu'en pensez-vous? Comment mettre un terme à la spirale de la violence dans le Sahel? Emmanuel Macron a-t-il raison quand il appelle les Africains à prendre leurs responsabilités? Quid du G5 Sahel? Nous en parlons tout de suite avec Didier Ouedraogo, docteur en philosophie, coordonnateur du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Didier Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Alors peut-être première question, est-ce que le Burkina Faso, hein, particulièrement la région frontalière du Mali et du Niger, est le théâtre, hein, depuis 2015 d'attaques djihadistes régulières? Selon un décompte, hein, de l'agence France Presse, il y a eu 460 morts au Burkina Faso depuis 2015. La première question est celle-ci, Didier Ouedraogo. Est-ce que la recrudescence des attaques, hein, signe selon vous l'échec des solutions militaires?
En tout cas, si pour l'instant on ne peut pas tirer un bilan exhaustif donc des initiatives militaires, on peut tout au moins dire pour l'instant que leur présence ne satisfait pas aux objectifs visés. C'est-à-dire que on aurait quand même pensé que un recul, si ce recul n'est pas notoire, au moins qu'il soit perceptible quelque part, donc de ce que leurs initiatives auraient comme effet. Sauf que, et malheureusement, on est dans un sens inverse, puisqu'on assiste à une progression, à une recrudescence et à une espèce donc d'envolée asymptotique donc de la violence et des attaques terroristes à leur approfondissement d'une part et à leur élargissement de l'autre. Donc on peut se poser réellement la question de l'efficacité donc de la présence militaire et quant à la solution ou quant aux solutions qui sont envisagées. Parce que dans le fond, et si on doit poser cette question comme ça, bon, on pose la question de manière bien sûr particulière en ce qui concerne le Burkina Faso, mais on peut la poser aussi avant le Burkina et sur le cas malien, on peut la poser aussi sur le cas centrafricain, etc. Vous voyez, on peut poser la même question et sur plusieurs pays comme ça. Et où c'est les mêmes logiques, si vous voulez, qui sont en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire?
Les mêmes logiques, on va en parler justement, hein, comment le Burkina Faso et le Mali et le Niger, hein, sont touchés par différents types de conflits. Je le disais en introduction, hein, Didier Ouedraogo, à Osaka, hein, c'est au Japon où se tenait le sommet du G20, le président français a appelé les pays africains à prendre leurs responsabilités. Alors qu'en pensez-vous? Et est-ce que selon vous, le président français a raison quand il souligne le manque d'investissement politique de ces États?
Alors, écoutez, j'ai l'impression d'entendre un petit peu un discours du surfait. Déjà, on a entendu déjà un discours de ce genre. Hein. On l'a entendu, si on veut reculer un peu dans notre histoire France-Afrique, hein, dans des relations de la France avec l'Afrique, on l'a entendu sous d'autres formes avec François Mitterrand par rapport à la BOL, parce que c'était un appel à prendre des responsabilités politiques, hein, et à changer donc les manières donc, de gérer les sociétés africaines auprès des dirigeants. On l'a entendu aussi avec Sarkozy qui a donné sa leçon à sa façon, hein, en disant que les Africains n'étaient pas encore entrés dans l'histoire. C'est une autre façon d'interpeller donc les Africains ou les responsables africains tout le moins à leurs responsabilités. Et ce que vient de faire donc le président Macron, c'est exactement dans la même veine. C'est-à-dire qu'on est un peu surpris quand même que la leçon vienne toujours d'ailleurs, hein, et que c'est la France qui donne un peu le là par rapport à la manière dont on doit gouverner donc ces États. Bon, mais en même temps, s'il y a une espèce, donc, si on est un peu désemparé et même surpris, et encore qu'on l'est qu'à demi-mesure, et sur des conseils comme ça, ben, c'est parce que tout simplement, on a permis aussi que ces conseils soient promulgués. C'est-à-dire que les responsables africains ont toujours laissé donc cette place et aux autres, donc, de leur dire comment il faut qu'ils gèrent leur propre pays. Alors, et non seulement de leur dire comment il faut faire, mais venir même faire à leur place. Et c'est ça toute la difficulté que nous rencontrons. Parce que si M. Macron aujourd'hui peut se permettre donc de dire aux responsables africains de prendre en main leurs responsabilités, mais ça veut dire que tout simplement, ils font le constat qu'ils ne sont pas assez responsables de leur propre société. Et c'est quand même assez curieux que eux, en tant que premiers dirigeants, ils n'aient pas eux-mêmes par eux-mêmes, si vous voulez, et pris conscience donc de ces incapacités ou de leur propre insuffisance ou de leur propre incurie. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que si des leçons doivent être tirées, Mais on ne peut pas attendre que ces leçons soient tirées de l'extérieur pour gouverner l'Afrique. Les Africains eux-mêmes sont en capacité de tirer leurs propres leçons. Et j'ajouterai une petite chose avant qu'on continue. Et il n'appartient pas, je ne pense pas, du premier chef au président Macron de donner les leçons à l'Afrique. Très honnêtement.
Vous l'avez dit. Et pourtant, il le fait, mon cher Didier.
Mais il le fait parce que tout simplement, on lui a donné la permission de le faire.
Vous lui avez dit parce qu'il n'y a pas de constat en face. Hein, on connaît l'adage hein, qui dit « La nature a horreur du vide ». Merci Didier Ouedraogo. Restez à l'écoute. Hein, on va donner la parole aux auditeurs. Hein, je rappelle que c'est le JDA 33 1 55 07 58 00 pour réagir. Faut-il que Barkhane plie bagage ? Diaby, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Diaby. Vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Et en même temps, dans le Sahel, hein, il a évoqué hein, la montée d'un sentiment anti-français et fustigé hein, ceux qui jouaient politiquement avec ce sentiment. Est-ce que vous avez remarqué, vous, ça, le sentiment d'un sentiment anti-français au Mali notamment ?
C'est pas anti-français, c'est anti-militaire français. Ça, c'est. Parce que. Stéphanie, le Mali et la France, depuis le temps des colons, ils sont ensemble. C'est pas, on ne contrôle pas les peuples français. Les peuples français ne contrôlent pas les Maliens. On est contre les militaires français qui sont idéaux à Bamako. Nous, notre militaire malien sont en train de tuer dans le nord. Les militaires français, ils ont des ordres à donner. Stéphanie, on a des avions. On n'a même pas le droit de piloter nos avions. Tant qu'on n'a pas eu accord des militaires français. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Moi, je trouve que Macron a raison. Mais pourquoi Macron a dit ça? Parce qu'il semble que la Russie, le 1er septembre, le militaire de Russie vont descendre au Mali. Je pense qu'avec la France, ça ne les arrange pas. Donc maintenant, Macron, il prend ses responsabilités de dire Barkhane maintenant de préparer les bagages. À partir du 30 septembre, moi, je pense que le militaire russe avec les militaires français, ils ne vont pas travailler ensemble. Parce qu'il n'y a aucun militaire qui travaille avec aucun. Mais un seul pays, il y a tant de militaires, Stéphanie, je n'ai jamais vu ça au monde entier, qui regarde. Chacun, à Kidal, si vous rentrez à Kidal, même avec un portable, les militaires français vous contrôlent, vous n'avez pas le droit de rentrer avec un portable. Mais comment vous pouvez comprendre? Moi, j'ai des amis là-bas, je les appelle tous les jours. Quand ils vont saisir, ils n'ont pas le droit de rentrer. Aucun Malien aujourd'hui peut rentrer à Kidal avec un sac, même un sac de vêtements, t'as pas le droit de rentrer avec.
Finalement, la sortie d'Emmanuel Macron, elle est aussi pour répondre à ces accusations, pensez-vous? Puisque voilà, depuis quelques semaines, face à la recrudescence des attaques, à l'extension du territoire des attaques, voilà, on accuse la France de ne rien faire, de pas faire suffisamment, et on accuse la France aussi d'avoir stoppé l'armée malienne à Kidal. Est-ce que pensez-vous que cette sortie du président français vise aussi à répondre à ces critiques?
Non, c'est pas question de répondre à ces critiques. Moi, je comprends ces critiques. C'est que, Stéphanie, on a l'habitude ça, c'est, Macron, il dit ça, c'est un poudre au jeu. Mais on nous sait qu'on demande à Macron simplement, on nous, les Maliens, sait qu'on demande à Macron de laisser, si les ministres français ne peuvent pas travailler avec les ministres maliens à Kidal. Mais moi, je vois pas. Si je viens, je viens chez vous. Mais si vous voulez pas que je travaille avec vous, je vais faire comment? Moi, je comprends pas. Comment vous pouvez comprendre que les ministres maliens, ils sont cantonnés? Ils sont cantonnés? 200 kilomètres de Kidal. Vous n'avez pas besoin de...
Cela dit, Diaby, pour l'instant, la zone la plus incertaine et instable ces dernières semaines, ça reste quand même le centre du Mali et la région de Mopti.
Centre du Mali, région de Mopti, c'est vrai, région de Kidal. Tous ces bandits-là, voyous-là, qui terrorisent l'Afrique, ils sont venus de Kidal, parce que le français ne veut pas laisser les militaires rentrer, les militaires maliens...
Pour vous, rentrer, tant qu'on n'aura pas libéré, si on libère Kidal, ça résoudra les violences dans le centre?
Je vous jure, Stéphanie, je vous jure, parce que ça fait longtemps que je parle cette antenne, si le français libérera le Kidal demain, on n'aura plus de problème, ni Burkina, ni en Côte d'Ivoire, on n'aura plus de problème.
Les Ivoiriens, on les a pas mis dans la sauce encore. Mais merci Diaby de votre intervention. Didier Ouedraogo, vous avez entendu Diaby. Hein, effectivement, chez beaucoup de Maliens, il y a cette épine hein, Kidal hein, dans le pied de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec Diaby quand il dit que finalement, une fois que Kidal sera aux mains de l'État malien ou de l'armée malienne, les violences cesseront? Est-ce vraiment ça?
Je ne suis pas très sûr que la solution soit seulement... et la capacité pour l'État malien donc de reprendre donc en main Kidal. Et je me pose même la question, comment on a pu faire pour que Kidal ne soit plus sous contrôle de l'État malien? C'est ça la question d'abord. Et est-ce que l'État malien aussi, deuxième question, Est-ce que l'État malien a vraiment l'intention de reprendre Kidal sous sa direction en tant qu'État? Alors, je ne sais pas si derrière tout ça, cette compartimentation du pays, il n'y a pas donc derrière un schéma tout simple. Rappelez-vous, et c'est une information, peu importe, aujourd'hui, et l'État malien appelle à un dialogue inclusif, etc., et avec donc un texte préparatoire et dans lequel il y a des objectifs, des termes de référence, dans lequel terme de référence il existe donc des indications concernant donc une probable remise en question de la constitution malienne et dans laquelle constitution il apparaît donc des répartitions et donc une nouvelle administration territoriale du Mali. Bon, tout ça, c'est des questions qui sont posées.
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son intervention, en disant aussi qu'il y a un manque de décentralisation. Est-ce qu'on peut dire ça aussi pour le Burkina Faso?
Alors, la décentralisation, on a calqué la décentralisation exactement sous la même copie que la décentralisation en France. Et on l'applique donc de manière, je dirais, imbécile, passez-moi l'expression, j'y pense beaucoup, et en Afrique. Sans tenir compte donc de différentes réalités. Et le problème de la décentralisation en Afrique, c'est qu'on a décentralisé tout, on a décentralisé l'administration et encore, et on n'a jamais décentralisé les moyens. Dans tous les cas, ce qui se passe effectivement dans toutes les régions donc africaines qui vivent sous la décentralisation, ces différentes régions dans ces pays sont délaissées par le pouvoir central. Et il y a que les grandes métropoles, entre guillemets, qui sont que des grandes villes, qui sont à peu près, si vous voulez, et qui vivent avec, ou qui bénéficient donc de subsides donc de l'État.
Est-ce qu'on peut dire, Didier Ouedraogo, que c'est dans ces régions délaissées par l'État qu'agissent les djihadistes?
Ben oui, entre autres. Parce que si vous voulez, le problème c'est que, ces régions des pays ont été longtemps délaissées. Les populations ont été livrées à elles-mêmes. L'administration publique qui est sur le champ, avec tous les démembrements donc de l'État, ne vivent que sous des conditions très très précaires donc sur leurs fonctions régaliennes, d'accord, locales, et ne peut pas assurer du tout. Les préfets, la gendarmerie, la police, etc., sont totalement désemparés, sont démunis et ne peuvent pas avoir donc prise sur la réalité donc régionale ou locale. En d'autres termes, si on ne déplace pas, on ne décentralise pas les moyens pour une présence réelle de l'État, pour un ordre, si vous voulez, étatique local, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que ces différentes régions-là soient livrées à elles-mêmes, parce que la misère est beaucoup plus forte, la pauvreté y est endémique, et l'administration y est absente. Donc, en réalité, nous sommes donc dans des espaces totalement non étatiques, c'est-à-dire non gouvernés. Et automatiquement, c'est des espaces tout à fait pour eux, pour toutes sortes de pénétrations, à la fois sur le terrorisme, mais il n'y a pas que le terrorisme. Il y a tout ce qui a poussé sur le lit de la pauvreté et du délaissement et du sentiment d'abandon des populations, qui fait que ça, comme effet, donc de remettre en selle donc des groupes de voyous, de bandits, etc., qui sont la proie aujourd'hui de toutes sortes donc de marchandages, ceux qui marchandent les armes, ceux qui marchandent la drogue et ceux qui marchandent des actes terroristes. Tout ça fait partie donc de la même logique.
D'ailleurs, le chercheur Boukari Sangaré, dans une tribune publiée la semaine dernière, soulignait que finalement cette espèce de djihadisme prônait des abîmes de moins en moins religieux et de plus en plus criminels. On va redonner la parole aux auditeurs, mon cher Didier. On écoute Armand, Eric et Cana. Armand, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Armand. Vous dites que c'est une moquerie de la part du président français.
Non, ça ne fait pas sérieux. Lui, il n'était pas encore, peut-être qu'il était bébé encore, ou 2 ans par là, jusqu'à Dessin disait l'Afrique aux Africains. Maintenant, est arrivé, la même chose. Chirac, la même chose. Arrêtons un tout petit peu ça, de nous prendre comme toujours des enfants. S'ils veulent que les Africains se prennent en charge, que le CFA se fabrique en Afrique. C'est tout, point. Tout dépend. C'est l'argent qui est le nerf de la guerre.
Oh, donc, personne n'oblige les Africains à être dans la zone franc, Armand.
Comment ?
Personne n'oblige.
Vous croyez
Il y en a qui en sont sortis. Le Mali.
Vous croyez, à cette époque, on ne lisait pas très bien les lignes. Et les premiers chefs d'État ont signé comme ça. Il faut signer là. C'est tout. C'était ça. C'était une façon d'obliger les gens. On est
dit ce que vous voulez dire par là, Armand, c'est qu'il ne suffit pas de décréter, de demander aux Africains de leur responsabilité, il faut que ça passe par des actes.
Oui, là voilà. Je comprends. Là je comprends. Mais dire comme ça, qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils nous laissent tranquilles aussi, la liberté on la mérite. Parce que c'est pas un jeune homme comme ça qui va toujours nous donner des leçons de morale, quoi. Ça suffit.
Justement,
hein.
Armand, est-ce que la liberté ça ne s'arrache pas?
Oui, bien sûr, mais on ne peut pas se battre avec la France. C'est nos partenaires, mais qu'ils mettent les choses comme sous forme de décentralisation, un tout petit peu, c'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire la guerre avec la métropole, pas du tout.
Vous avez sorti le mot terrible, mon cher Armand. Merci Armand. Armand qui parle de métropole, on parlait de métropole en temps des colonies. Ça pose la question effectivement de l'indépendance peut-être des États. Merci beaucoup Armand de votre intervention. Eric, bonjour.
Allô.
Bonjour. Alors,
oui, allô,
coupez
bonjour,
votre radio, s'il vous plaît.
Ouais, je l'ai coupé.
Merci.
Ouais.
On a fait un espèce de wouhou. Vous avez entendu Armand qui dit oui, c'est bien marrant de demander aux Africains de prendre leurs responsabilités, mais il faut que la France fasse un certain nombre de choses. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ouais, je suis. Bonjour. Déjà, je me présente. Je suis Eric Badibanga. Je suis congolais, rien à voir avec la Mali, mais je suis africain. J'aimerais bien intervenir quand ça touche les Africains. J'aimerais bien intervenir. Je suis d'accord.
Oui, vous êtes intervenu.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Armand. Mais j'ai quelque chose à rajouter sur ce que Armand est en train de dire. Déjà, quand le président français Macron qui demande à tout le président africain de se prendre en charge. Ouais.
Restons sur le Sahel, hein, on est bien d'accord. Hein, il parle principalement des pays Mali, Burkina Faso, Niger. Voilà. Okay. Il a demandé à ses États de prendre leurs responsabilités.
Ça serait mieux déjà à la base d'enlever sa main en Afrique pour permettre à ses présidents africains de se prendre en charge. Comment un président africain peut se prendre en charge? Il utilise le monnaie qui est fabriquée chez eux. On a déjà, c'est comme un jouet, quoi. C'est comme Monopoly. On est déjà là, on utilise la monnaie. Là où ça se fabrique. On ne sait pas où ça se fabrique. On utilise la monnaie. Et comment ils peuvent se prendre en charge déjà avec le monnaie dirigée par lui-même Macron qui leur demande de se prendre en charge?
Voilà. C'est pas, je vous rassure, c'est pas Macron lui-même qui dirige le franc CFA et qui compte comme ça.
C'est pas Macron lui-même.
Non, bah voilà. On précise, s'il vous plaît, Eric.
Ça, on le sait tous. Mais c'est, tout le monde sait aussi l'histoire. L'histoire, c'est pas lui qui l'utilise, mais ça date aussi. En fait, moi, mon intervention est que c'est jusqu'à quand ce président aussi va être coincé? Parce qu'ils sont coincés. Aujourd'hui, tu leur demandes de se prendre en charge. Il y a les militaires français presque dans tout le pays africain. Même chez nous, comment on n'a rien à voir, on a des militaires français chez nous. Et ils commencent à contrôler même les militaires. Comment vous voulez que les militaires maliens le prennent? Il y a des coins où ils sont obligés à être fouillés par les policiers et par les militaires français qui n'est pas normal. En fait, moi, mon intervention est que, déjà, aujourd'hui, les gens parlent de chez eux par rapport... Bon, bref, ça, c'est pas dans le domaine. Même le président, il a aussi à s'occuper de son pays. Ah. Aujourd'hui, le peuple réclame les voitures de 10 ans, le feu roulé sur le périph. Il s'occupe un peu de maillot, de gilet jaune, je ne sais pas quoi, il s'occupe.
Je vous rassure, il s'en occupe, parce que j'ai du mal à comprendre. Je pensais, quand vous parliez de président, je pensais que vous parliez sur le continent africain, non, vous parliez de la France, hein, demandant à Macron de s'occuper peut-être de son peuple. Merci Eric pour cette intervention. Didier Ouedraogo, je reviens vers vous, oui. Peut-être pour un petit commentaire en une minute. Sur ce mantra, effectivement, on dit des solutions africaines aux Africains. On avait poussé à la création du G5 Sahel, lesquels, c'est plutôt la France qui devait pousser pour que les présidents du G5 Sahel se réunissent. On est quand même dans un cercle vicieux et une espèce de spirale dont on a du mal à sortir aussi, comme en termes sur le plan d'indépendance.
Oui. Alors, si, c'est vrai que en gardant le fil rouge, n'est-ce pas, donc de la déclaration du président Macron sur la question de la responsabilité donc de ces États, ça rejoint votre question. C'est-à-dire que nous sommes devant une espèce donc de panne ou d'aporie, et face à l'initiative G5 Sahel, à côté de laquelle on a ajouté une autre structuration qui s'appelle Alliance Sahel. Bon, d'abord, la première chose ne fonctionne pas, tout simplement parce que effectivement. Les États n'ont pas la capacité de leur politique, les moyens de leur propre politique. C'est-à-dire que
si le G5 Sahel a été mis en place par les États qui sont concernés, ce que je suppose que c'était en toute indépendance, je le suppose seulement, et on se rend quand même compte très rapidement que les moyens ne suivent pas pour mettre ça en œuvre. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de demander à un voisin, viens m'aider pour chasser le voleur de chez moi, mais en réalité, je n'ai rien du tout pour le chasser, il faut que tu le fasses à ma place. Alors, c'est très compliqué. Et donc, ça voudrait dire que quelque part, même si effectivement la volonté existe pour ces pays, ce que je crois aussi, mais en partie seulement, si ces responsables d'État ont la volonté, et je pense davantage que les peuples ont la volonté surtout de se débarrasser de tous les actes terroristes et de tout ce qui sont apparentés à ces actes, c'est-à-dire le banditisme, la criminalité galopante, etc. Si on part de ce principe-là, on peut comprendre que le G5 Sahel soit une bonne chose. C'est-à-dire coaliser les
on va rester sur cette bonne idée, mon cher Didier. Je suis désolé, mais j'arrive à la fin de l'émission et je peux pas vous donner la parole. Déjà, je suis déjà un peu en retard, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. J'ai bien compris que dans l'esprit, le G5 Sahel est une bonne chose. N'hésitez pas, continuez le débat sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. À demain.